Chapitre 6, le fil. Car ils étaient unis par un fil qui ne pouvait exister qu'entre deux individus de leur espèce, deux individus qui avaient reconnu leur solitude dans celle de l'autre. Paolo Giordano. San Francisco, 9h30 du matin. Marcus émergea du sommeil difficilement. Comme un somnambule, il avança jusqu'à la salle de bain, entra dans la douche sans enlever ni son caleçon ni sa chemise, et resta immobile sous le jet jusqu'à ce que la chaudière se vide. L'eau glacée lui fit ouvrir un œil et, après s'être rapidement séché, il se traîna jusqu'à sa chambre pour constater que son tiroir à sous-vêtements était vide. Tous ses caleçons et tous ses t-shirts s'entassaient dans la corbeille en osier. Le Canadien leva un sourcil interrogateur. Jonathan, qui l'avait maintes fois menacé de ne plus laver ses vêtements, avait mis son avertissement à exécution.
« John !» se plaignit-il avant de réaliser qu'on était samedi et qu'à cette heure, le restaurateur avait sûrement déjà quitté la maison pour sa visite hebdomadaire au marché fermier de l'Embarcadéro. Encore en suquet, il plongea la main dans la montagne de linge sale et enfila les premiers vêtements réutilisables qui lui tombèrent sous la main. Puis, Marcus se traîna dans la cuisine et trouva en tâtonnant la thermos de pu'er que Jonathan préparait chaque matin. Il se laissa tomber sur une chaise et but à même le goulot une longue rasade de thé noir. Comme si le breuvage dérouillait ses neurones, il eut une illumination soudaine et se déshabilla illico presto pour laver ses sous-vêtements dans l'évier avec du liquide vaisselle. Après les avoir essorés, il ouvrit la porte du micro-ondes et régla la durée sur 8 minutes. Content de lui, c'est dans le plus simple appareil qu'il sortit sur la terrasse.
« Salut, boisson soif !»
l'accueillit Boris. « Bonjour, ectoplasma plume !» répliqua Marcus en gratouillant son plumage.
Signe ultime de leur complicité, l'oiseau sautilla, inclina la tête et ouvrit son bec lui offrant une bouchée prédigérée de fruits mélangés. Marcus remercia son ami, puis s'étira longuement au soleil, bâillant à s'en décrocher la mâchoire.
« Secoue-toi les côtelettes ! Secoue-toi les côtelettes !»
hurla le perroquet.
Stimulé par ses exhortations, Marcus effectua alors ce qu'il considérait comme sa tâche la plus importante de la journée. Il vérifia le système de pompe à eau qui irriguait la dizaine de plants de cannabis cachés derrière les rosiers du jardin. Jonathan n'approuvait pas du tout sa petite culture. Mais il fermait les yeux. Après tout, la Californie était le premier producteur occidental de chanvre indien, et San Francisco symbolisait à lui seul la tolérance et la contre-culture. Marcus resta encore un moment sur la terrasse à profiter de la chaleur. Ayant passé la majeure partie de sa vie dans le froid de Montréal, il goûtait particulièrement la douceur du climat californien. Sur la petite colline de Telegraph Hill, on avait du mal à croire que Noël approchait. Les trompettes dorées du jasmin commençaient à éclore. Les palmiers, les prunus et les lauriers roses resplendissaient au soleil. Les maisons de bois ployaient sous le lierre, ensevelies au milieu d'une jungle luxuriante où piaillaient passereaux guillerets et oiseaux-mouches colorés. Malgré l'heure relativement matinale, quelques promeneurs descendaient déjà les marches fleuries de l'escalier Filbert. En dépit de la végétation abondante, la maison n'était pas complètement préservée des regards. Certains passants étaient amusés, d'autres choqués. Mais aucun ne restait de marbre devant cet hurluberlu à poil qui tenait une conversation graveleuse avec un perroquet. Marcus ne s'en affecta pas, jusqu'à ce qu'un touriste dégaine son appareil photo pour immortaliser la scène.
« Peut même plus être tranquille chez soi !»
maugréa le Canadien en battant en retraite dans la cuisine juste au moment où la minuterie du micro-ondes signalait la fin de la cuisson. Curieux du résultat, il ouvrit le four pour récupérer ses vêtements. Ils étaient non seulement secs, mais aussi tout chauds et doux.
« En plus, ils sentent la brioche !» se félicita-t-il en humant le petit tas de linge.
Devant le miroir, il les enfila, satisfait, ajustant son caleçon, lissant le t-shirt dont il aimait particulièrement le flocage. Plus de bière, vie de merde. Son ventre gargouilla. Affamé,
Il ouvrit le réfrigérateur et farfouilla parmi les aliments avant de tenter un mélange hasardeux. Sur une tranche de pain de mie, il tartina une belle couche de beurre de cacahuète qu'il recouvrit de sardines à l'huile, sur lesquelles il disposa des rondelles de banane. « Exquis !» pensa-t-il en poussant un soupir d'aise. Il n'avait dégusté que quelques bouchées de son sandwich lorsqu'il les aperçut. Les photos de Madeleine. Plus d'une cinquantaine de portraits, punaisés sur le tableau de liège, plaqués par des aimants contre les portes des placards métalliques ou même directement scotchés au mur. Visiblement, son colocataire avait passé une bonne partie de la nuit à imprimer ses clichés. La jeune femme y apparaissait sous toutes ses coutures, seule, en couple, de face, de profil. Jonathan avait même agrandi certains tirages, scrutant ses yeux et son visage. Perplexe, Marcus arrêta sa mastication et s'approcha des photos. Sans en donner l'impression, le Canadien exerçait une vigilance constante sur Jonathan. Pourquoi s'était-il prêté à cette mise en scène? Quel mystère cherchait-il à percer derrière le regard de Madeleine Green? Sous le vernis, il connaissait la fragilité de son ami et savait que son rétablissement était encore précaire. Chaque homme a dans le cœur un vide, une entaille, un sentiment d'abandon et de solitude. Marcus savait que l'entaille dans le cœur de Jonathan était profonde et qu'un tel comportement n'augurait rien de bon. Pendant ce temps, à quelques kilomètres.
« Papa, je peux goûter le jerky ?» demanda Charlie. « C'est la viande des cow-boys !»
Son fils sur les épaules, Jonathan parcourait depuis une heure les étals du marché paysan agglutinés sur l'esplanade de l'ancien débarcadère. Pour le restaurateur, c'était un rituel immuable. Chaque samedi, il venait se ravitailler et trouver l'inspiration pour composer son menu de la semaine. Le Farmer's Market était une véritable institution à San Francisco. Autour du Ferry Building se réunissaient une centaine de fermiers, de pêcheurs et de maraîchers qui vendaient des produits locaux issus de la culture biologique. C'était là que l'on trouvait les plus beaux légumes, les fruits les plus juteux, les poissons les plus frais, les viandes les plus tendres. Jonathan aimait cet endroit qui attirait une foule bigarrée. Des touristes, des chefs, de simples gourmets à la recherche de produits de qualité.
S'il te plaît, papa, il y a du jerky là-bas, j'en ai jamais mangé.
Jonathan libéra son fils qui se précipita vers le stand. Enthousiaste, Charlie avala un bout de viande de bœuf séchée avant de réprimer une grimace. Jonathan lui fit un clin d'œil malicieux. Au milieu de ce festival de saveurs, il se sentait chez lui. Basilic, huile d'olive, noix, chèvre frais, avocat, courgette, tomate, aubergine, herbes aromatiques, potiron, salade. Il inspectait, humait, goûtait, choisissait. Le mauvais cuisinier est celui qui cherche à masquer le goût originel de l'ingrédient au lieu de le révéler. Jacques Leroux, le chef qu'il avait formé, lui avait transmis son savoir-faire et sa rigueur dans la sélection des produits, le respect des saisons et la quête des meilleurs fournisseurs. Ici, dans le jardin potager des États-Unis, ce n'était pas bien difficile. Depuis longtemps déjà, la nourriture bio n'était plus l'apanage des hippies. C'était désormais un mode de vie, à San Francisco comme dans toute la Californie. En gardant un œil sur Charlie, Jonathan compléta ses achats par 5 belles volailles, 10 tronçons de turbo et une caisse de coquilles Saint-Jacques. Il négocia une dizaine de homards et 5 kilos de langoustines. À chaque commande, il fournissait au responsable de stand le numéro de la place où était garée sa camionnette pour que les employés du marché puissent acheminer la livraison.
« Hé, Jonathan, goûte-moi ça !»
lui lança un écaillé de Point Reyes en lui tendant une huître. C'était une plaisanterie entre eux, car le Français, n'appréciant pas la coutume locale, qui voulait que l'on passe l'huître sous l'eau avant de la servir, ne mettait jamais ce type de coquillage au menu de son restaurant. Jonathan remercia et avala malgré tout le mollusque avec un trait de citron et un morceau de pain. Il profita de cette pause pour sortir de son blouson le téléphone de Madeleine. Il consulta l'écran et marqua une légère déception en constatant que la fleuriste n'avait pas donné suite à son message. Peut-être devait-il lui renvoyer un SMS pour s'excuser. Peut-être était-il allé trop loin. Mais cette femme l'intriguait tant. Cette nuit, juste après avoir imprimé les photos, il avait fait une étrange découverte en examinant la répartition de la capacité du téléphone. Capacité du disque, 32 gigaoctets. Espace disponible, 1,03 gigaoctets. Pourcent utilisé, 96,8. Pourcent disponible, 3,2. Cette information l'avait surpris. Comment la mémoire de l'appareil pouvait-elle être déjà saturée? À première vue, le téléphone contenait 5 films, une quinzaine d'applications, 50 photos, quelques 200 chansons et... c'était tout. Insuffisant pour remplir un smartphone. Pas la peine d'être un expert en informatique pour le savoir. Conclusion, le disque dur devait contenir d'autres données. Accoudé au parapet qui dominait la baie, Jonathan alluma une cigarette, regardant Charlie accroupi près des clapiers à lapin. Sans doute n'était-il pas très légal de fumer ici, mais à court de sommeil, il avait besoin de sa dose de nicotine. Il inspira une bouffée en répondant d'un signe de tête au salut d'un confrère. Jonathan n'avait jamais été tant apprécié par ses pairs que depuis qu'il ne leur faisait plus d'ombre. Lorsqu'il le croisait, la plupart des producteurs et des restaurateurs le saluaient avec un mélange étrange de respect et de compassion. Ici, la plupart des gens savaient qui il était. Jonathan l'Empereur, l'ex-chef le plus créatif de sa génération, l'ex-Mozart de la cuisine, l'ex-patron de la meilleure table du monde. L'ex. Aujourd'hui, il n'était plus rien. Ou presque. Juridiquement, il n'avait même pas le droit d'ouvrir un restaurant. Lorsqu'il avait été obligé de vendre la licence d'exploitation de son nom, il s'était en effet engagé à se tenir éloigné des fourneaux. French Touch ne lui appartenait pas, et son nom n'était jamais mis en avant, ni sur le site internet du restaurant, ni sur ses cartes de visite. Dans un article, une journaliste du Chronicle avait levé le lièvre. Mais elle avait reconnu que le modeste troquet dans lequel il officiait aujourd'hui n'avait rien du lustre de l'impérateur. Jonathan avait d'ailleurs profité du papier pour mettre les choses au point. Oui, son nouveau restaurant ne servirait que des plats simples, à des prix abordables. Non, plus jamais il ne créerait la moindre recette et son inspiration n'était pas revenue. Non, plus jamais il ne briguerait la moindre récompense culinaire. Au moins, les choses étaient claires et l'article avait eu le mérite de rassurer les chefs qui s'inquiétaient du possible retour de l'empereur derrière les fourneaux. « Papa, je peux goûter des petits pois au wasabi ?» implora Charlie en observant avec curiosité le stand d'un vieil asiatique qui proposait aussi des langues de canard et de la soupe de tortue. « Non, mon bonhomme, tu n'aimeras pas, c'est très épicé. »«
S'il te plaît, ça a l'air si bon !»
Jonathan haussa les épaules. Pourquoi, dès le plus jeune âge, la nature humaine nous portait-elle à ignorer les conseils avisés?
Fais comme tu veux.
Il tira une nouvelle bouffée sur sa cigarette et plissa les yeux à cause du soleil. À roller, à pied ou à vélo, de nombreux promeneurs profitaient du beau temps pour flâner le long du front de mer. Au loin, l'océan étincelait et dans le ciel d'un bleu intense patrouillaient des mouettes opportunistes prêtes à fondre sur toute nourriture accessible. Échaudé par le jerky, Charlie aurait dû se méfier davantage. Mais la belle couleur verte des pois soufflés inspirait la confiance. C'est donc sans appréhension qu'il engloutit une petite poignée de pois moutardés et...
« Barre, ça pique !»
hurla-t-il en recrachant dardard ce qu'il venait d'ingurgiter. Sous l'œil amusé du vieux japonais, l'enfant se tourna vers son père.
« Tu aurais pu me prévenir !»
lui reprocha-t-il pour masquer sa vexation. « Allez, viens, je t'emmène prendre un chocolat !» proposa Jonathan en écrasant sa clope et en hissant Charlie sur ses épaules.